Parce qu'il faut bien se rendre compte du contexte dans lequel cette mission avait été décidée. Cette mission, dans un premier temps, avait été décidée de pouvoir arriver à sécuriser la ville de Goma, empêcher que les rebelles ne puissent pas entrer et prendre le contrôle de cette importante ville stratégique, et que c'était leur objectif avec principalement la chaîne de commandement qui était par l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, dans le cadre de déploiement de cette force, a dû collaborer avec les militaires congolais. Quand on dit militaires congolais, on parle de militaires congolais, eux aussi, avec d'autres alliés, dont les Wazalendo, dont aussi les mercenaires, dont aussi les groupes FDLR. Ça, c'est maintenant reconnu au niveau même des rapports des Nations Unies qui confirment effectivement cette collaboration. Et dans ce cadre-là, il est devenu difficile pour l'armée sud-africaine ainsi que les forces de la SADC de rester alors que la ville pour laquelle la mission pour laquelle ils étaient mandatés, que la ville est tombée entre les mains des rebelles du M23, AFC. Et donc, il est très clair que ça ne valait plus la peine que cette mission continue sans savoir quel serait son mandat. Dès le départ aussi, il faut souligner que le mandat n'était pas clair. Au départ, c'était un mandat de maintien de la paix. Et ce mandat de maintien de la paix s'est transformé en mandat offensif. Et ce mandat offensif a produit les résultats que nous connaissons. Et donc, ça n'avait plus de sens que la mission reste, en sachant que quand même, c'est une mission qui coûte cher, non seulement à l'organisation de la SADC, mais aussi au gouvernement congolais, puisque le gouvernement congolais s'était engagé à pouvoir suppléer financièrement pour le financement donc de cette mission. Donc, dans l'état actuel des choses, c'était la décision la plus raisonnable que la SADC pouvait prendre.
Quels pourraient être les impacts de ce retrait sur la stabilité de la région, mais aussi sur la position de Kinshasa?
Alors, le retrait de cette mission illustre très bien que l'isolement de Kinshasa au niveau régional, quand je dis au niveau régional, ce n'est pas uniquement au niveau de la SADC, mais aussi au niveau de l'East African Community, et aussi de la CIAC, et aussi au niveau de l'Union africaine, et aussi même au niveau de la communauté internationale. Puisque toute la communauté internationale l'avait conseillé à Tshisekedi de pouvoir aller vers le dialogue et les négociations, Tshisekedi n'avait pas voulu, a uniquement focalisé toute sa force, toutes ses forces sur l'option militaire, et l'option militaire vient d'échouer. Et comme l'option militaire a échoué, et on voit bien que toutes les villes sont en train de tomber pratiquement sans combat, Bukavu est tombé sans combat, beaucoup de cités, Walungu, le fief de Kamere et d'autres, est tombé sans combat, et la progression de la rébellion dans le Sud Kivu est assez fulgurante, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle qu'il serait pratiquement aux portes d'Ouvira et que bientôt, il pourrait même s'attaquer à Kalemie, qui est le Katanga. Et le Katanga, c'est un autre combat. Et ce qui veut dire clairement que cette option n'a plus de sens pour Tshisekedi, qui se retrouve isolé, non seulement au niveau international, mais aussi au niveau interne. Puisque au niveau interne, plusieurs po voies politiques ont demandé qu'il puisse y avoir des négociations, mais ces voies politiques avaient été isolées, avaient été minimisées. Et ces voies politiques-là ont été soit des fois aussi contraires à l'exil, et malheureusement, on en est pratiquement là avec l'isolement diplomatique, affaiblissement militaire de Tshisekedi, et donc les marges de manœuvre du président Tshisekedi se réduisent de jour en jour, et il ne serait pas étonnant que dans les prochaines semaines, qu'on a encore d'autres revirements de situation après cette décision de la SADC.
Il y a le Burundi qui reste tout de même aux côtés de Tshisekedi et qui a déployé un nombre important de troupes. On parle de 10 000 troupes.
Oui, le Burundi qui était déployé depuis plusieurs mois sur les champs de bataille, ils ont été présents dans le Nord Kivu, ils ont été défaits, tout comme les autres troupes de la SADC, les troupes de la MONUSCO, les troupes des Wazalendo, les troupes des mercenaires et les troupes même des FDLR ont été défaits. Et ils se sont repliés sur Bukavu. Là aussi, il y a eu une défaite sur Bukavu. Et donc, ce qui avant s'est passé sur le terrain, c'est qu'ils sont en train de se replier sur Bujumbura, donc au niveau du Burundi. Donc, les troupes burundaises sont en train de se replier et laisser champ libre à la rébellion pour pouvoir avancer. Et cette situation prouve à suffisance que même le Burundi, qui était le plus farouche, on va dire, le plus farouche soutien de Tshisekedi, se désengage aussi sur le plan militaire Et donc, on a une espèce de désengagement aussi de ce côté-là qui ouvre la voie à la rébellion, à prendre, entre guillemets, plusieurs dizaines de villages. Et on est aujourd'hui à l'équivalent de plus ou moins 60 000 km² qui sont contrôlés par la rébellion, 60 000 km² plus ou moins pour 15 millions d'habitants. Et donc, ça veut dire que la rébellion, au jour d'aujourd'hui, gère pratiquement un territoire. Parce que, comme vous vous souvenez, 60 000 km², c'est le Rwanda, le Burundi réunis et plusieurs pays africains réunis et d'autres pays africains qui n'ont pas 60 000 km² sous lesquels la rébellion est en train de gérer. Et donc, on est dans un basculement. On avait une rébellion, on va dire, résiduelle qui gérait des villages. Maintenant, on a une rébellion qui gère pratiquement un État.
Comment le retrait des troupes de la SADC pourrait-il influencer les dynamiques des négociations entre Kinshasa et le M23? Existe-t-il un risque que ce retrait soit perçu comme une opportunité par les groupes armés pour renforcer leur position et avancer?
Tout à fait, parce que le momentum n'est pas innocent. C'est qu'on a déjà eu l'annonce par le gouvernement angolais, le président Lorenzo, a clairement dit que Kinshasa était disposé à pouvoir discuter directement avec le M23 alors que c'était pour le Tshisekedi une ligne rouge. Et donc, cette position de la SADC ne fait que renforcer la position du M23 dans sa stratégie de pouvoir contraindre Tshisekedi à s'asseoir autour de la table avec eux pour échanger par rapport au futur du Congo. Et dans cette position actuelle, avec ces différentes décisions qui sont prises, le M23 se retrouve en position de force vis-à-vis de Tshisekedi et pourrait même imposer leur calendrier à Tshisekedi, c'est qu'on pourrait arriver à un renversement des situations à Kinshasa avec un fait de régime de Tshisekedi à Kinshasa.
Quelles mesures la communauté internationale, y compris les organisations régionales africaines, devrait-elle prendre pour soutenir durablement la paix et la stabilité dans l'est de la RDC, en particulier à la lumière de ces récents développements?
Il y a des pistes de sortie qui sont déjà sur la table, notamment l'initiative de la CENCO, donc l'Église catholique ainsi que l'Église protestante en RDC, qui ont balisé déjà le terrain, qui ont le soutien de pratiquement tous les pays de la région pour qu'il puisse y avoir une discussion claire entre les différentes parties prenantes dans le conflit de manière interne, c'est-à-dire l'opposition armée incarnée par le M23 AFC de Corneille Nangaa, plus l'opposition politique avec Katumbi, Kabila, Fayulu et les autres, et avec le gouvernement congolais pour essayer de trouver des pistes de solutions de sortie de crise. Il n'y a que cette piste-là qui est sur la table, qui est la plus crédible, sur laquelle les pays de la région soutiennent et qu'ils veulent que cette initiative parvienne à se concrétiser. Et donc, il n'y a que cette piste-là qui, de mon point de vue, est la plus crédible et c'est celle qui pourrait apporter une réponse et une certaine stabilisation de la RDC, et que si cette initiative ne se concrétise pas, nous allons aller vers ce qu'on appelle une fragilisation du Congo, une explosion de l'État Congo, et qui pourrait déstabiliser non seulement le Congo, mais aussi beaucoup de pays de la région, notamment par exemple le Sud-Soudan, notamment par exemple le Burundi, et d'autres encore pays qui pourraient être déstabilisés par l'instabilité congolaise.
Les négociations directes entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle M23 doivent débuter le 18 mars à Luanda sous médiation angolaise. Quels sont selon vous les principaux défis et opportunités associées à ces pourparlers de paix?
Il y a beaucoup de défis. Le premier défi, c'est qu'il y a quand même des entraves par rapport à cette discussion directe, parce que vous vous souvenez que la plupart des responsables du M23 AFC sont condamnés à mort par la justice congolaise, non seulement condamnés à mort, ensuite il y a eu des mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés contre ces différentes personnes, et aussi il y a même des appels avec des primes qui ont été offerts par le gouvernement congolais à toute personne qui contribuerait à arrêter les responsables donc, de la rébellion. Dans ce contexte-là, vous imaginez que c'est un peu délicat de pouvoir aller vers des négociations à Luanda, dans le contexte où il y a ces différentes décisions, et que ces décisions doivent être levées. Et pour que ces décisions doivent être levées, ça veut dire qu'il y a des préalables, et ces préalables risquent d'entraver la poursuite de ces négociations directes entre Kinshasa et la rébellion. Parce qu'il faut lever ces préalables, et pour les lever, c'est des mécanismes qui sont assez lourds, des procédures judiciaires, des décisions judiciaires qui prennent un peu de temps. Et donc, je n'ai pas beaucoup d'espoir de voir que le processus de Luanda va aboutir à quelque chose à cause des préalables que je viens de vous faire part.
On parle du M23, mais il y a une autre plateforme politique qui est dirigée par Corneille Nangaa. On ne parle pas des négociations avec cette plateforme politique.
Non, ce n'est pas compliqué parce que lorsque l'on parle du M23, effectivement, on va dire que c'est le qualificatif qui est donné à la rébellion, pour reprendre entre guillemets le narratif du gouvernement de Kinshasa. Mais M23, c'est l'AFC, donc c'est Corneille Nangaa, parce qu'il y a une dynamique militaire, mais il y a aussi une dynamique politique. La dynamique militaire, elle est incarnée effectivement par le M23, mais la dynamique politique, elle est incarnée par l'AFC de Corneille Nangaa. Dans les discussions de Luanda, donc clairement, il y aura une dimension politique et il y aura une dimension sécuritaire. Donc, ce sera une alliance certainement entre Corneille Nangaa et le M23 pour arriver à que les questions politiques soient abordées par les politiques et que les questions sécuritaires soient abordées par les sécuritaires qui sont le M23. Donc, de ce point de vue-là, parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois depuis la conquête des différents territoires, dans les différents meetings que nous avons suivis sur les réseaux sociaux, on voit bien très bien qu'il y a une répartition de rôles entre ces deux pôles. Il y a le rôle politique avec les meetings et les discours qui sont faits par les politiques, et c'est les militaires qui avancent sur le terrain, et les militaires sont contrôlés essentiellement par le M23.
Étant donné votre expérience dans le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration des DDR dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, quelle stratégie recommanderiez-vous pour assurer une réintégration efficace des combattants du M23 dans la société congolaise si un accord de paix est conclu?
Alors, je ne crois pas beaucoup à ce processus de réintégration de tel ou tel, parce que tout simplement, on a déjà vécu, on a déjà fait les évaluations par rapport aux différents processus qui ont été en cours. De mon point de vue, c'est-à-dire simplement, on doit parler de réforme des systèmes de sécurité militaire, sécurité civile, mais aussi sécurité policière, mais sécurité aussi militaire de la RDC, pour intégrer tout ce groupe dans un système de fonctionnement républicain pour qu'il y ait non plus ce qu'on appelle des réinsertions dans l'armée, mais essayer de créer une nouvelle armée républicaine en intégrant tout ce groupe, en recommençant par une réforme fondamentale pour la création d'une véritable armée congolaise. Ça, c'est la solution. Je ne crois pas beaucoup depuis qu'on a déjà essayé de faire les différents projets de réinsertion dans la société civile, ça ne marche pas. Il faut, de mon point de vue, prendre tous ces groupes armés, M23 et les autres, ceux qui veulent aller dans l'armée, vont dans l'armée, et le reste vont se réinsérer dans la société civile avec la société civile. Mais l'essentiel doit être basé sur la refondation de l'armée congolaise pour en faire une armée républicaine, comme dans tout pays moderne, dans tout pays qui veut se reconstruire et se développer.
Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a déclaré que l'initiative du président angolais dans le cadre de ces négociations s'inscrit dans le cadre de la résolution 1773 qui ordonne aux rebelles du M23 de se retirer des zones qu'ils contrôlent. Est-ce que vous pensez que c'est une chose possible?
Ce n'est pas possible parce qu'il y a ce qu'on appelle un narratif qui n'est pas correct. Parce que quand vous demandez aux rebelles de se retirer des zones qu'ils contrôlent, ils vont se retirer pour aller où? Pour aller à Nouganda, parce qu'il faut bien se rendre compte que la rébellion M23 commence par l'Ouganda. Et c'est en Ouganda que cette rébellion a commencé. Quand vous dites qu'ils se retirent des zones qu'ils contrôlent, ça veut dire que vous leur demandez de rentrer en Ouganda plutôt que de rester là où ils sont, parce qu'une bonne partie des troupes, malgré l'appui de l'armée rwandaise, une bonne partie des troupes qui sont sur le terrain, ce sont des Congolais, mais vous voulez qu'ils se retirent pour aller où? Alors qu'ils s'occupent, ok, ce sera impossible, de mon point de vue, impossible de pouvoir demander ça comme préalable. Si c'est ça comme préalable, ça veut dire à ce moment-là, c'est le feu vert qui est donné à la rébellion pour avancer et conquérir encore d'autres territoires. On ne sera pas étonné que d'ici quelques jours ou quelques semaines, qu'il y ait encore plusieurs villes qui vont passer sous leur contrôle.
Quel est le compromis gagnant-gagnant que vous voyez dans ces négociations?
Le compromis gagnant-gagnant que nous voyons, au-delà des aspects sécuritaires et d'autres aspects, et de mon point de vue, qu'il est dans un premier temps qu'il faut d'abord résoudre la question congolaise, entre Congolais, et puis ramener après, une fois que cette dimension est résolue, qu'on aille vers une dimension régionale. Dans la dimension régionale, il est impératif de ne pas uniquement voir le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Soudan du Sud, il y a le Burundi, il y a la Tanzanie, il y a la Zambie, il y a l'Angola, il y a tous les autres pays frontaliers avec lesquels il est importantissime, de mon point de vue, de mettre en place ce qu'on appelle une stratégie des rapports interdépendants. Et les rapports interdépendants entre ces différents pays ramènent à ce que l'interdépendance prend le pas sur des enjeux nationaux et que cette indépendance peut amener effectivement à ce qu'il puisse y avoir un climat de paix et un climat donc de cohésion nationale et d'arriver à avoir une dynamique régionale qui profite aux populations.